Bonjour, bonjour Yves, au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Une émission qui vous rappellera que 24 notes secondes est une émission, pardonnez-moi, consacrée à la musique de film. En fait, j'étais déjà en train de lire la biographie du réalisateur duquel je vais vous parler aujourd'hui et je ne suis qu'un garçon, donc je ne peux pas faire deux choses à la fois. Donc je reprends au début 24 notes secondes, une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bouge sur les grands écrans, bien sûr, depuis quelque part à la fin du 19e siècle et sur à peu près tout et n'importe quoi depuis quelque part, depuis le début du 21e siècle. Ce jour, donc, nous allons aborder la carrière d'un réalisateur anglais né à Leicester le 20 juin 1941, quelque part dans les Midlands de l'Est, autant dire une terre un peu déshéritée, le dénommé Stephen Frears, qui depuis, eh bien, a connu une carrière internationale et nous allons essayer d'évoquer le tout. Stephen Frears commence fort classiquement par des études de droit, notamment au Trinity College de l'Université de Cambridge, avant de travailler pour le théâtre et de réaliser son premier film en 1970. Il a d'abord été assistant d'un réalisateur aujourd'hui bien oublié, hélas, Carol Rice, notamment l'auteur de La maîtresse du lieutenant français, un somptueux mélodrame avec Meryl Streep en vedette, et ensuite, eh bien, le dénommé Stephen Frears commence, comme beaucoup de jeunes réalisateurs britanniques, par tourner pour la BBC en 1970, un premier film intitulé Gun Show, duquel j'avoue je n'ai jamais entendu parler. Ensuite, eh bien, suivront un ou deux autres films, là aussi pour la BBC. Un premier film de cinéma tourné en 1984, The Hit, où l'on voyait un tireur d'élite sur le retour, interprété par le charismatique Terence Stamp, quelque part dans les terres espagnoles, avec une musique du grand Paco de Lucía, ma foi. Un exercice un peu vain et pas très convaincant, ce qui ne sera pas le cas du film suivant, qui donnera l'occasion à Stephen Frears de commencer à accéder à la célébrité, My Beautiful Laundrette, qui est dans un premier temps tourné pour la télévision, là encore, en 16 mm, et oui, dans les années 80, nous sommes encore en pellicule, mais présenté au Festival d'Édimbourg, eh bien, le film rencontre un tel succès lors de ce festival que les producteurs, bien avisés, décident de le gonflé en 35 mm pour le projeter dans les salles de cinéma. Et ils sont bien avisés puisque ce film rencontre un grand succès dans les salles de cinéma qui va installer Stephen Frears comme l'un des grands réalisateurs des années 90 et jusqu'à aujourd'hui. Comme on va l'évoquer, mais commençons par écouter un extrait de la bande originale de ce film, My Beautiful Laundrette, qui présente la curieuse particularité d'être coécrite cette musique par Stanley Meyer et notre grand, si on veut, Hans Zimmer, mais qui à l'époque, on ne sait trop pourquoi, s'était fait connaître sous le pseudonyme de Ludus Tonalis. C'est du latin, mais je ne vous le détaille pas. My Beautiful Laundrette dans 24 notes secondes.
So
Ah ben je ne sais pas vous, mais moi j'adore le petit bruit d'eau qu'on entend au début beaucoup, ensuite un peu moins, dans cet extrait de la bande originale de My Beautiful Landrette, un film de Stephen Frears sorti en 1985. Et alors, même si je tout à l'heure évoquais Hans Zimmer, il faut quand même rendre à César, etc. Cet extrait, cette chanson, j'avoue que je ne sais pas qui la chante, eh bien c'est la partie Stanley Meyer de cette bande originale de My Beautiful Landrette, un film qui racontait une histoire d'amour entre un jeune émigré pakistanais, Omar, et un jeune homme anglais, Johnny, le second étant interprété rien moins que par Daniel Day-Lewis, qui commençait là une carrière des plus brillantes, alors qu'il faut bien reconnaître que l'interprète du jeune Omar n'est pas devenu aussi connu. Et ces deux-là décident d'exploiter une laverie automatique, a laundrette in English. Et ma foi, le film se situe dans un propos social tout à fait dénonciateur. Nous sommes en 1985, donc en plein dans les années Thatcher, vous savez, la dame de 1, There is no alternative, Tina, in English, et la dame 2 qui disait, mais ça n'existe pas, la société, il n'y a que des individus, ma foi, des fois on se demande si elle n'avait pas raison, en tout cas, des années extrêmement difficiles sur le plan social, comme pouvait en témoigner, et comme en témoigne d'ailleurs toujours Ken Loach, et Stephen Frears le faisait avec une veine peut-être plus acide et plus humoristique, même peut-être plus convaincante, dirais-je, que les essais parfois dogmatiques de Ken Loach, et il était aidé en cela par le fait que le scénario de ce film, My Beautiful Landrette, eh bien, il était signé d'un brillant romancier, un très jeune romancier à l'époque. Il avait une trentaine d'années, mais ensuite il n'a fait que confirmer toutes les promesses qu'on pouvait placer en lui. Hanif Qureshi, donc, qui avait réussi à faire de ce film eh bien, une réussite, et une réussite telle que, bien évidemment, eh bien, ces deux-là récidivèrent. Mais je voudrais quand même d'abord rectifier une petite erreur faite, et je m'en excuse platement, c'est qu'en fait, en 1985, eh bien, Stephen Frears était loin d'être un bleu, il était loin d'avoir tourné 4 ou 5 films. C'est vrai qu'il avait tourné 3 ou 4 films, ou 4 ou 5, je ne sais plus trop, pour le cinéma, mais qu'il en était déjà à son 25e octobre. Plus télévisuel. L'homme avait déjà une longue carrière à la télévision, commencée dès 1968. Et My Beautiful Landrette, eh bien, ce fut l'occasion, presque 15 ans plus tard, eh bien, de basculer vers le cinéma pour pratiquement ne plus le quitter, et même si il continua quand même à tourner un certain nombre de téléfilms, notamment en 2000, un téléfilm tourné en direct, le croiriez-vous, un peu comme dans l'ancien temps de la première télévision, ça s'appelait Point Limite, mais je ne vous en dirai pas plus, et on va retourner en arrière pour écouter cette fois un extrait d'un film tourné en 1987. On retrouve à nouveau Hanif Qureshi au scénario, et on retrouve à nouveau Stanley Meyer pour la musique. L'histoire, là encore, d'un couple un peu improbable entre un Indien et une Anglaise. Et les parents du premier viennent rendre visite au couple un peu libre. Et du coup, mais ça ne se passe pas forcément très très bien, d'autant plus que là encore, nous sommes dans les airs Thatcher. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale. Je vous en dirai peut-être un peu plus après, dans 24 notes secondes. Voilà, un très court et très bucolique extrait de la bande originale de Sammy et Rosie, Sans voix en l'air. Alors, en anglais, ça s'appelle Sammy et Rosie Get Laid. Sauf erreur de ma part, ça veut dire Sammy et Rosie baise. Mais peut-être que c'était pas trop... Excusez-moi, je voudrais deux places pour... Ça ne fait plus trop maintenant. Donc, on s'en est tenu là du temps, 1987, où on traduisait encore en français les titres des films anglais. Un film donc qui réunissait dans les rôles principaux, ça vaut quand même la peine de le noter, alors deux acteurs assez peu connus qui interprétaient le couple évoqué avant d'écouter cet extrait, et puis le père du jeune Indien qui était interprété par Shashi Kapoor, un nom qui hélas ne vous dira rien, mais Shashi Kapoor, né en 1938 à Calcutta, donc il avait déjà un âge conséquent en 1987, eh bien, c'est un des très grands acteurs indiens puisqu'il avait à son actif déjà en 1987 plus de 200 films, mais 200 films pour la plupart indiens. Quant à l'autre actrice sur laquelle je voulais attirer votre attention, eh bien, il s'agit de Claire Bloom. Claire Bloom, qui débuta comme comédienne de théâtre à 17 ans, mais qui reste presque essentiellement connue pour sa participation à un film de Charlie Chaplin qui s'appelait Les Feux de la Rampe, avec une partition musicale et un thème signé, là encore, de Charlie Chaplin, bien connu. Un film dans lequel on voyait Charlie Chaplin et, en fait, Charlot faire un duo resté fameux avec rien moins que Buster Keaton et Claire Bloom. Et bien, dans ce film, jouait le rôle de l'ingénue. Elle eut ensuite un certain nombre d'autres rôles au cinéma, mais on ne peut pas dire qu'elle perça. Et donc, eh bien, Claire Bloom et Shashi Kapoor faisaient dans ce film deux apparitions, plus que des apparitions d'ailleurs, tout à fait bienvenues pour un film, je l'ai déjà évoqué, qui était une sorte de composition, de variation sur Ma Beautiful Landrette. À nouveau, un scénario brillantissime d'Anif Qureshi. Je vais y arriver, pardonnez-moi. À nouveau, la musique déjà écoutée de Stanley Meyer. Et à nouveau, cette dénonciation de Madame Thatcher, qui d'ailleurs inaugurait le film en prononçant un discours qualifié de social, mais un discours musclé, comme elle en avait l'habitude dans ces bonnes vieilles années où on croyait encore que l'ère libérale allait apporter prospérité et égalité pour tous. 1987, je vous le rappelle. En tout cas, pour Stephen Frears, ce fut l'occasion d'un grand succès et puis l'occasion eh bien, de franchir un cran et de passer à des productions, cette fois internationales, peut-être un peu moins authentiques, même si après il revint dans sa terre natale. Mais en 1988, nous n'allons pas en écouter un extrait, eh bien, ce sera le triomphe des liaisons dangereuses, d'après Coderlo de la Clos, un film pour lequel Stéphane Frears avait, je dirais, tous les atouts. D'abord, un scénario brillantissime de Christopher Hampton, adapté donc du roman épistolaire, dois-je le rappeler, de Coderlo de la Clos, et puis une distribution éblouissante et adaptée. Ce n'est pas toujours le cas. Glenn Close, John Malkovich et Michele Pfeiffer dans les rôles principaux. Un film qui sera un triomphe à tout point de vue, commercial c'est sûr, mais aussi artistique et de reconnaissance puisqu'il obtint trois Oscars. Autant dire qu'après ce film-là, eh bien, Stephen Frears pouvait tourner tout ce qu'il voulait et il tournera bon, des choses plus ou moins bienvenues. On pourra quand même retenir en 1992 « Héros malgré lui » avec Dustin Hoffman dans une histoire extrêmement drôle et tournée avec cette verve satirique que Stephen Frears tenait de ses origines anglaises. Un Américain n'aurait jamais pu tourner un film comme cela. Et à côté de Dustin Hoffman, pardonnez-moi, il y avait Andy Garcia et Gina Davis. Et puis, il retournera au cinéma anglais pour The Snapper, tourné en 1993. Et en 1996, à nouveau, un film moins personnel, mais duquel nous allons quand même écouter un extrait de la bande originale. Un film dans le rôle principal duquel eh bien, on voyait rien moins que Julia Roberts, qui interprétait en fait l'assistante de Dr. Jekyll. Une histoire un peu bizarre. Évidemment, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ce sont les héros bifides d'une fameuse nouvelle de Robert Louis Stevenson. Il ne me souvient pas, pour l'avoir lu, qu'il y avait dans cette nouvelle eh bien, une secrétaire pour le Dr. Jekyll, ma foi. Le scénario de Christopher Hampton le permettait. La musique, elle était signée de John Fenton. Je vous en dirai peut-être un peu plus, mais j'ai déjà été assez bavard, je le sais, c'est pas la peine de me le dire. Donc, on va écouter un extrait de la bande originale, Marie Reilly, dans 24 notes. La musique tourmentée de George Fenton pour un film de Stephen Frears sorti en 1996, Marie Reilly. Marie Reilly, la secrétaire du Dr Jekyll et de Mr Hyde, enfin surtout du Dr Jekyll, interprétée dans ce film par Julia Roberts, tandis que le Docteur était quant à lui interprété par John Malkovich. John Malkovich qui avait déjà été dirigé par Stephen Frears dans Les Liaisons Dangereuses, déjà évoqué pour un film qui n'est pas vraiment resté dans les mémoires, dans lequel on trouvait aussi Glenn Close et quelques autres, l'adaptation d'Ma Petite Fiche qui ne ment jamais, dois-je vous le rappeler, d'un roman de Valérie Martin, qui était lui-même ce roman, eh bien, une adaptation de la nouvelle de Robert Louis Stevenson. Ma foi, on pourra trouver et la nouvelle de Robert Louis Stevenson et les nombreux films qui en ont été adaptés plus convaincants que cet opus qui fait partie, je dirais, de cet aspect international de la carrière de Stephen Frears, qui de temps en temps eh bien, s'évade de sa bienheureuse Grande-Bretagne pour aller picorer ailleurs d'autres sujets et qui parfois y revient. Il faut reconnaître que c'est souvent quand il y revient qu'il est le meilleur. C'était le cas après Marie Reilly avec The Van, tourné en 1996, alors que des films comme The Hello Country, tourné en 1998, ou Dirty Pretty Things, dans lequel on trouvait pourtant notre Audrey Tautou nationale, ma foi, ces films-là furent beaucoup moins convaincants. Et là encore, il fallut attendre, après quelques années, je dirais un peu un peu erratique. Il fallut attendre 2006 pour que Stephen Frears rencontre à nouveau un grand, grand succès commercial et artistique avec The Queen, qui racontait la vie de la reine Elisabeth juste après la mort de Lady Di. Je vous le rappelais, et où de laquelle Reine Elisabeth était interprétée de magistrale façon par Hélène Mirren pour un film à la fois acide et non pas révérencieux, mais presque en hommage à une femme qui aura beaucoup mérité, puisque elle en a quand même beaucoup supporté depuis la Seconde Guerre mondiale qu'elle a passée avec son papa sous le Blitz à Londres, jusqu'à eh bien, tous les déboires qu'elle a pu connaître en tant que reine, et notamment cet épisode crucial où elle s'est trouvée un temps coupée du peuple pour ne pas professer envers Lady Di l'admiration qui, à l'époque, était de coutume. Maintenant, on en est bien revenu, me semble-t-il. Mais ce n'est pas de The Queen, musique d'Alexandre Desplat, dont nous allons écouter un extrait, mais de celle d'un film lui aussi tout à fait délicieux et lui aussi tourné dans la campagne anglaise, un film tourné en 2010, intitulé Tamara Drew, et où l'on voyait dans le rôle éponyme, ça s'appelle, de Tamara Drew, et bien la délicieuse Gemma Arterton, qui revenait dans sa campagne anglaise avec le nez refait. Comme ma foi, le reste était aussi beau que le nez refait, eh bien, il s'ensuivait, je dirais, quelques troubles parmi les éléments masculins de la campagne anglaise, puisque même dans la campagne anglaise, on peut avoir des troubles, et le tout adapté d'un roman graphique de Posy Simons, eh bien, ma foi, était délicieusement, angliciseusement acide. Allez, on écoute un extrait de la bande originale de ce film, Tamara Drew, dans 24 notes secondes. Thank you. l'impeccable Alexandre Desplat pour un extrait de la bande originale de Tamara Drew, un film de Stephen Frears. On va se quitter à nouveau avec Stephen Frears et Alexandre Desplat. Et après ça, 24 notes secondes, ça sera fini. Ça s'appelle Philomena, c'est sorti en 2013. Au revoir.